Alors, il y a quelques jours, je suis allée célébrer un culte dans une maison de retraite, Lambrecht, pour que plusieurs connaissent. Et la plus vieille personne, savez-vous quel âge il avait, ce monsieur? Alors, s'il y a des enfants qui veulent se rapprocher pour que je puisse les interroger, si jamais, Evan, tu veux venir plus près, eh bien, tu en es libre. Mais là, je te vois, donc si jamais tu as envie de répondre à mes questions, tu peux. Ce vieux monsieur, il avait 101 ans. Et ce monsieur avait dû aller à l'hôpital pour se soigner parce qu'il avait un problème aux poumons. Est-ce que les enfants, vous savez à quoi servent les poumons? Oui, vas-y, Evan. À respirer. Merci. Les poumons, c'est ce qu'on a là, ça sert à respirer. Et ce monsieur, eh bien, il a été guéri et il est revenu dans sa maison de retraite à 101 ans, presque 102 ans. Et il est toujours vivant. Et vous, est-ce que vous respirez? Est-ce qu'on respire? Tu peux, voilà, là c'est un moment, tu peux me montrer que tu sais respirer. Qu'est-ce qui se passe quand tu respires? Il y a de l'air qui rentre, ouais. Et est-ce que tu le gardes tout le temps, ton air? Qu'est-ce qu'il fait après l'air? Tu vois, si tu mets ta main quand tu respires, tu souffles, et bien ça fait de l'air sur ta main. Voilà, et bien ça, on respire. On ne garde jamais notre souffle dans le corps. Il y a toujours un mouvement. Ça circule. Et ça, c'est universel pour tous les êtres vivants, tous les hommes, les femmes, les enfants, les mammifères aussi respirent, les plantes respirent. Alors, elles ne respirent pas de la même manière que nous, mais elles respirent aussi. Et alors, dans la Bible, on raconte que le premier souffle de l'être humain a été donné par Dieu. Dieu a voulu que la vie existe sur la terre et ce souffle, c'est la ruach en hébreu. L'hébreu, c'est la langue de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est un petit peu plus familier. Le mot pour dire esprit ou souffle, c'est pareil, c'est pneuma. Alors ça a donné des mots en français comme pneu ou pneumatique. Qu'est-ce que c'est un matelas pneumatique? Est-ce que vous savez? Je ne sais pas si ça existe encore, un matelas pneumatique. Oui, quand même. C'est un matelas dans lequel on met de l'air dedans. Ouais, les scouts, on met de la paille dans les matelas, encore. Non, c'est pneumatique. Donc on met de l'air dedans et comme ça, on peut dormir confortablement. Et puis, l'air a une grande puissance. Il peut pousser des bateaux à voile. Il peut porter les avions qui sont dans l'air, qu'on voit dans l'air. Dans l'air, on ne le voit pas, mais il porte les avions. Et puis, on peut gonfler les pneus de la voiture. On roule sur de l'air. Et puis, on peut gonfler un ballon avec de l'air. C'est ce que je vais faire maintenant. Vous connaissez les ballons? Pas aller trop loin. C'est embêtant, ça. Pardon de vous avoir fait peur, hein. C'était pas la bonne couleur, peut-être. Alors, je vais recommencer. Je vais pas aller aussi loin. J'espère qu'il sera un peu plus solide. Voilà. Donc, vous voyez la différence entre un ballon qui est gonflé et un ballon qui n'est pas gonflé. C'est quand même très puissant. Est-ce qu'on voit l'air qui est dans le ballon? On ne le voit pas. Eh bien ça, c'est l'image qu'on va prendre pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Mais on en voit les effets qu'il peut faire. Là, l'air, on a vu, j'ai mis de l'air dans le ballon et le ballon, il est bien gonflé. Alors évidemment, le plastique le ballon est fait de plastique, s'il est trop tendu, il ne tient plus et il explose. Eh bien, pour nous, l'Esprit Saint vient en nous comme dans ce ballon. Mais, eh bien, la différence avec le ballon, c'est qu'il rentre et il sort tout le temps. Et l'Esprit, c'est pareil. Il passe, on peut se dire, tiens, peut-être que c'est l'Esprit Saint qui a donné cet effet-là. Et ensuite, eh bien, on continue à vivre sans se douter que l'Esprit Saint est peut-être toujours avec nous. Et donc, aujourd'hui, c'est la fête de ce souffle que Dieu nous donne. Pentecôte, c'est pas une fête religieuse, c'est une fête universelle, on l'a entendu avec les langues, ça touche tout le monde sur toute la terre, et c'est une fête universelle parce que le souffle de vie, il est indispensable à la vie. Et donc Dieu peut être présent avec chacun et chacune des personnes sur la terre qui peut le recevoir. Pentecôte, c'est difficile à comprendre parce que c'est la fête chrétienne la plus mystérieuse. On sait qu'on a le lundi férié, on ne va pas à l'école, on va au travail ou pas, selon qu'on est solidaire avec la journée des personnes, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais même plus si ça existe encore, la solidarité avec les personnes âgées. Mais en tout cas, on sait que ce week-end-là, il y a quelque chose de particulier. Et c'est difficile parce qu'à Noël, on sait qu'on célèbre la naissance de Jésus. À Pâques, donc, il y a le signe de la crèche à Noël. À Pâques, il y a un autre signe, c'est la croix. À Pâques, on célèbre la mort de Jésus, enfin, on commémore, on se souvient de la mort de Jésus et on célèbre sa résurrection, la vie plus forte que la mort. Mais Pentecôte, eh bien, il n'y a pas vraiment de signe. Et comme on ne voit pas l'Esprit Saint, c'est difficile, on ne voit plus Jésus et c'est difficile aussi de se le représenter. Jésus est mort à Pâques, il est ressuscité à Pâques, ensuite il est monté au ciel, on a eu pas encore un jour férié, on a eu le jour de l'Ascension, et 10 jours après l'Ascension, on a la Pentecôte. La Pentecôte se greffe sur une fête juive qui était une fête de Pentecôte, Soukhot, et qui était le don de la loi au peuple juif. Du coup, comment dire le Saint-Esprit? Eh bien, dans ce récit des Actes des Apôtres que nous avons entendu, chacun les entendait dans sa langue maternelle. Alors on a peut-être tous une langue maternelle qui est le français, pour moi en tout cas, et peut-être que vous, vous avez une autre langue maternelle. C'est une langue très proche du cœur, la langue maternelle. C'est le plus profond de ce qu'on a en nous. Et Jésus a voulu dire, si vous pouvez entendre ma parole, c'est pas quelque chose qui reste en superficie, c'est quelque chose qui est dans la profondeur de votre cœur. Et c'est cela, l'Esprit Saint, l'action de l'Esprit Saint. Mais alors, si on ne sait pas trop ce que c'est, enfin, si on ne voit pas cet Esprit, comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'il est là? Eh bien, au tout début, après les actes au moment des Actes des Apôtres, la première conséquence de ce souffle, c'est la joie. Les disciples, ils étaient complètement tristes, complètement découragés, complètement abattus en voyant Jésus qui était mort. Et au moment, on l'a enterré, etc. Et au moment où ils se disaient, c'est terminé, le projet de Jésus, c'est fini, il faut tirer un trait dessus, il s'est passé quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, difficile à décrire, parce que personne n'était là. C'est des gens qui ont revu Jésus vivant. Jésus a été vivant, il s'est remontré à ses disciples. La première à qui il s'est montré, c'est une femme, Marie-Madeleine. C'est elle la première des témoins. Et puis ensuite, il s'est montré à plusieurs amis avant de revenir vers le Père. Ce qui est incroyable dépasse la raison. On peut expliquer que Jésus est historiquement avéré. Mais la résurrection, c'est un témoignage qui demande la foi, qui demande la confiance et qui ne peut pas se prouver. Mais ça permet aussi d'être attentif à ce que l'Esprit veut dire en nous. Qu'est-ce que l'Esprit me donne? La foi, c'est un cadeau, c'est un don de l'Esprit Saint. Et la foi nous permet d'avoir confiance en Dieu. Et donc, ces premiers témoins ont transmis cette bonne nouvelle. Et ça s'est répandu comme jamais une religion s'était répandue aussi rapidement dans le monde. Et donc, Ces premiers témoins ont dit « Jésus est vivant et vous aussi vous êtes appelés à une vie de lumière. Vous aussi vous êtes appelés à une vie où la peur peut reculer, où nos propres ténèbres peuvent reculer. » Et dans le passage que nous avons entendu dans l'épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit que l'Esprit Saint suscite même le plus petit des témoignages. Il dit « Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit Saint. » L'Esprit Saint suscite notre foi, la fait naître et la fait grandir. Et du coup, eh bien, nous aurons la joie tout à l'heure de t'entendre, Julie, dans ton témoignage de foi. La Bible est le grand livre du témoignage. Elle a été écrite il y a longtemps, mais grâce à l'Esprit, nous pouvons l'interpréter et la comprendre. Ou en tout cas, comprendre ce que Dieu veut nous dire et comprendre que ça peut être une parole de vie pour nous. Le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, c'est une puissance spirituelle. La plus petite, peut-être, c'est de dire Jésus est Seigneur. Et la plus grande puissance, eh bien, c'est la résurrection de Jésus. C'est par son Esprit que Dieu a ressuscité Jésus. Et puis, dans notre vie, parfois, on ne s'en rend pas compte que l'Esprit est là. Il y a des choses qui se passent, des événements, des réactions qu'on a qui vont dans le bon sens. Et c'est un peu comme les pneus de la voiture, ça nous fait avancer sans qu'on y pense. Quand vous roulez avec votre voiture, vous ne pensez pas que c'est sur de l'air que vous êtes. L'Esprit Saint, c'est pareil. Il nous invite à l'action, il nous invite au mouvement, il nous invite au mouvement vers les autres. Alors en même temps, dans le monde, eh bien, certains imaginent que cette puissance spirituelle pourrait prolonger leur petite gloire et leur pouvoir terrestre. On en connaît. Il y en a qui aiment à se croire comme des dieux, et c'est à nous de discerner, en effet, d'où vient l'Esprit qui les anime. Regardons les fruits que cela produit, regardons les gens qui se réclament. Est-ce que cela produit de la paix et de l'amour, ou est-ce que cela produit de l'exclusion et de la violence ? Personne ne peut enfermer le vent qui passe. Personne ne peut enfermer ce souffle, personne ne peut le posséder. Il souffle, il passe, nous le recevons et il nous met en route, non pas vers la toute-puissance qui écrase les autres, mais vers la vie, dans ses formes les plus humbles. Et puis il nous met en route vers la chose la plus difficile qui existe dans notre vie humaine, c'est la relation aux autres. Ça, c'est un vaste programme. Le premier commandement que nous donne Jésus, c'est s'aimer soi-même. Je commence par la fin, mais en fait, il faut commencer par là. S'aimer soi-même en se libérant de toute culpabilité sans fondement. Et puis, aimer l'autre, le prochain, c'est-à-dire celui qui se rapproche de moi ou celui de qui je me fais proche. Et puis, aimer ce que nous n'avons pas envie d'aimer. On peine parfois à dire que telle personne est notre ennemi, mais si on regarde bien les choses, parfois il y a des gens qui sont notre ennemi, qu'on n'a en tout cas pas envie d'aimer. Et pourtant, eh bien avec cet esprit de vie, on peut aller vers ceux qu'on n'a pas envie d'aimer, on n'a pas envie de les voir, on n'a pas envie. Et pourtant, l'esprit peut nous donner le courage, parce qu'il faut du courage. Et puis, vous avez peut-être entendu, quand Jésus souffle sur ses disciples, il y a une chose qui... Il ne leur demande même pas, c'est presque une constatation. Il leur dit, il y a le pardon. Je souffle l'Esprit sur vous et il y a le pardon. C'est-à-dire que quand on travaille un peu les évangiles, quand on lit, quand on réfléchit, on se dit, le pardon est au cœur de tout. Si on arrivait à pardonner à ceux même qui nous ont fait des petites choses, ben peut-être que les guerres s'arrêteraient dans le monde. Et c'est ce que nous demandons, c'est la seule chose que nous demandons dans la prière du Notre Père, quelque chose pour nous-mêmes, que nous-mêmes nous devons faire en fait. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Ça nous rappelle que parfois on n'a pas encore complètement pardonné parce qu'il faut du temps, mais ce qui est important c'est d'entrer dans le mouvement du pardon de la même manière qu'on entre dans le mouvement d'un souffle. Et c'est un amour qui dépasse toute morale. Alors, quand on est chrétien, eh bien, c'est l'apprentissage de toute une vie, Julie. C'est que le début que tu as là à vivre. C'est pas la mode, c'est pas du tout mis en avant par la société, parce que la société veut quelque chose dont on a un bénéfice immédiat, mais c'est dans le temps qu'on peut voir que la rectitude, l'honnêteté, le respect de l'autre, ben, gagne, on gagne en confort de vie, on gagne en sérénité et on gagne en cohérence entre nos paroles et nos actes. Quand on est sur ce chemin, cela nous donne une vie pleine et belle comme le ballon. Avec notre couleur personnelle, avec notre forme personnelle. Alors, vous voyez ce ballon, il peut arriver qu'il se dégonfle aussi. Et c'est pareil pour la foi. Les événements de la vie peuvent nous décourager, peuvent nous déprimer, peuvent nous éloigner de Dieu. Également les soucis, les doutes ou les influences d'autres personnes qui nous disent « Mais est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu crois? Est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu existe ?» Et c'est à nous de résister à ces tentations en nous rapprochant de ce qui peut nourrir notre foi, parce que notre foi a besoin d'être nourrie. Et c'est aussi à tout moment nous pouvons demander à Dieu, n'importe quand, n'importe où, nous pouvons demander à Dieu son esprit pour qu'il renouvelle nos vies, pour qu'il nous redonne de l'amour et de la paix, pour qu'il nous regonfle. Alors oui, je te souhaite de grandir dans la foi, avec l'Esprit Saint à tes côtés tous les jours, avec Jésus à tes côtés tous les jours. Et si tu doutes, relis les évangiles, parce que là, on peut toujours redécouvrir des choses grâce à cet esprit. Et je nous souhaite à nous tous de recevoir ce souffle de vie que Dieu nous envoie et que nous en soyons tous renouvelés. Amen.